Voilà, souvent on a l'habitude de dire il y a le temps de la louange, il y a le temps de la sainte scène, il y a le temps de la parole. Mais vous avez bien remarqué que le temps de louange, c'est la parole qu'on chante. Les temps prophétiques, c'est la parole révélée qu'on reçoit. Et là, c'est une autre façon aussi d'accueillir la parole. Donc vous voyez, et ce qui est étonnant aussi, c'est que à chaque culte, Josué, c'est jamais pareil. Selon ce qui mène, selon l'esprit, ce qui fait, etc., on est jamais, on se dit, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, quoi? Et il y a toujours quelque chose de nouveau, en tout cas, Dieu guérit, veut continuer à guérir au milieu de nous, et à parler, il touche les racines, il touche profond. Voilà, juste quelques annonces. Donc on a repris les créneaux de Tente de la Rencontre. Donc le premier, ça a été vendredi dernier à 19h. Le prochain, donc à peu près tous les 15 jours pour l'instant, peut-être il y en aura d'autres, mais au caveau. Donc c'est réservé simplement à ceux qui fréquentent l'église, hein. C'est pas forcément les membres associatifs, mais ceux qui fréquentent l'église. Le prochain aura lieu le samedi 3 février à 19h. C'est des créneaux d'une heure et demie. C'est des créneaux, on prie pas les uns pour les autres. C'est pas le temps pour porter les besoins, etc. C'est le temps pour chercher Dieu, adorer Dieu, être dans sa présence, dans sa parole, simplement. Et après, il peut y avoir des temps particuliers. Donc voilà. Il y a eu aussi une AG de l'Assemblée Générale du réseau Nouvelle Connexion Héritage auquel on appartient. Ça s'est bien passé et j'aimerais vous dire ce qui a peut-être été annoncé déjà, mais il y a du nouveau. Ce réseau a eu, vous savez que l'église Josué soutient mon ministère à mi-temps, c'est l'église, à mi-temps c'est pour les écoles chrétiennes, le réseau, le travail du ministère extérieur. Et ce réseau, Nouvelle Connexion Héritage, a choisi de soutenir le réseau Mathurin Cordier pour la prise en charge d'un mi-temps pour moi à partir de septembre prochain, pour décharger l'église Josué et investir au niveau de Fabrice à mi-temps le septembre prochain. Donc ça, c'est la trajectoire. Pendant un an, ça va être soutenu, et puis ensuite, ben voilà, que le réseau Mathurin Cordier puisse voler de ses propres ailes. Ce qui est étonnant, c'est que, en tant que réseau des écoles, on avait pris cette décision, ensemble, en Assemblée Générale, de soutenir maintenant mon ministère, au moins à mi-temps, ce qui est le fait depuis des années. Et puis sans avoir non plus les finances, hein. On sentit que c'était juste. Et juste après, il y a ce réseau héritage qui dit voilà, on a cœur d'investir. Donc voilà ce qui s'est passé cette semaine. Je vous salue aussi de la part de Heinz. Je l'ai visité à l'hôpital hier après-midi. Écoutez, il va bien, il va bien. Il a ses exercices pour de rééducation qui commencent là pour le côté droit, mais sa main, son bras, en fait, il est tombé sur le côté. Et en fait, il y a ce qu'on pensait être dû à une paralysie, en fait, c'est aussi surtout dû à la chute sur le côté droit. Et donc, il faut qu'il y ait toute une rééducation aussi de l'épaule, etc. Et donc dans les jours qui viennent, ils attendent qu'il soit, comme a dit Huguette, hein, ils attendent qu'il soit dans un centre de rééducation, peut-être à Colmar, peut-être aux Trois Épis. Donc au niveau des visites, il s'est filtré pour l'instant, hein, parce que bon, il l'aime bien, mais pas trop. Donc voilà. Donc j'ai dit de toute façon, on passera par Marguerite, ce que j'ai fait, et elle m'a dit OK pour que tu le vois hier après-midi. Donc voilà. Donc on vous préviendra si jamais c'est ouvert. En tout cas, le nouveau lieu dans lequel il devra aller. En tout cas, il va bien, il est dans une chambre avec quelqu'un d'autre, on a pu prier ensemble, et puis il se rend compte que, bah, comme nous tous, hein, il est à l'école de Dieu, et une école aussi du lâcher-prise. Et bah, les choses qu'il avait l'habitude de faire, etc., il se rend compte que, bah, il y a un temps pour tout, et ben bah, voilà, lâcher-prise. Mais j'ai senti une paix profonde, vraiment, vraiment bien. Hein. Donc voilà, vous avez les salutations de Heinz. Voilà, yeah. Oui. Ah oui, c'est ça, on laisse 10 minutes la porte ouverte et ensuite on la ferme au niveau du caveau, du temps de prière. Donc c'est retardataire, il ne faut pas qu'il y en ait, sinon vous avez porte fermée, mais qui viennent pour toquer, et la porte du caveau dans ce temps de froid, c'est le sol un peu gonflé, tout ça, on ne peut pas trop l'ouvrir, mais vous pouvez toquer, mais ça serait bien de ne pas arriver en retard. Donc ce n'est pas un créneau dans lequel on peut venir et partir comme on veut, en fait on vient, on ne part plus. Non, ce n'est pas ça. On vient, mais on essaye de venir à l'heure, voilà, c'est tout. Voilà, au niveau, oui. Voilà, donc Alain a fait une mauvaise chute, hein. C'est ce qu'ils ne savent pas, il a fait une mauvaise chute au niveau, sur la glace. Le jour où il y a eu la glace, il est sorti de chez lui, l'escalier, vlan, il s'est fait très mal au dos. Il n'y a rien de cassé au niveau radio, mais il a vraiment mal. Donc les nuits, je ne vous dis pas, et dès qu'il bouge, c'est très difficile. Donc voilà pourquoi il n'est pas là, et on est avec vous, dans c'est pas évident, c'est pas évident. Et quand j'ai vu toute la glace pour arriver jusqu'ici, je me dis, Seigneur, mais garde-nous, mais qu'il n'y en ait pas un autre encore. Hein. Voilà un peu les nouvelles. J'espère que j'oublie rien au niveau des annonces. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui, c'est... Alors, vous avez vu le chant qu'on a pris, c'est dans une thématique aussi de l'année, hein, c'est le au-delà, le infiniment au-delà, et on le trouve dans Éphésiens, qu'on a chanté tout à l'heure, Éphésiens 3, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, de tout ce que nous pensons, à lui la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Et puis, 2 Corinthiens 4, hein, pour soutenir ce verset, nos légères afflictions, est-ce qu'il y en a des afflictions, hein, du moment présent, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Donc voilà le infiniment au-delà, le au-delà de toute mesure. C'est vraiment dans ce créneau qu'on a démarré cette année. Et la parole pour aujourd'hui, elle se trouve dans l'épître aux Romains, au chapitre 4, versets 16 à 21. Et donc c'est ce texte qui m'inspire. Alors j'aimerais dire que la semaine dernière, donc nous étions avec Manuela à Colmar, à l'église Vie Extraordinaire, le couple Tarsicio. Vraiment des chers amis, ça a été un très bon temps. Et puis l'après-midi, on a eu un temps pour tous ceux qui avaient à cœur le projet d'implantation d'une école sur Colmar. Il y avait une cinquantaine de personnes. Pour un projet, j'ai jamais vu ça. Hein, pour démarrage de projet, juste des gens intéressés. Donc des parents, trentenaires, hein, des trentenaires, etc. Quelques responsables d'église, etc. Donc c'était vraiment bien. Et Tarsicio m'a dit, écoute Luc, le thème de l'église qu'on avait reçu de Dieu pour l'année passée, c'était l'espérance. Et puis le thème pour cette année, c'est l'accomplissement. Et donc en priant par rapport à cette notion d'espérance et d'accomplissement, parce que Dieu veut accomplir ses promesses, une année d'accomplissement, cette année 2024, voyez. Mais donc en priant pour les deux, j'ai reçu ce texte vraiment de Romains chapitre 4, et c'est ce que j'aimerais vous partager ce matin. Donc on va le lire, quelques versets, 16 à 21. « C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce. » Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui est à la foi d'Abraham, notre père à tous, selon qu'il est écrit, « J'ai été établi père d'un grand nombre de nations ». Il est notre père devant celui auquel il a cru Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, espérant contre toute espérance. Il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisque près de 100 ans, que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Et donc nous savons qu'il l'a accompli, que Dieu a accompli. Donc dans ce texte, nous avons trois choses. Nous avons l'espérance, nous avons la foi et nous avons l'accomplissement. Et le titre de ce message, c'est « L'espérance et la foi, chemin vers l'accomplissement ». Tout simplement. Donc c'est ces trois pôles qui sont importants. Donc le premier pôle sur l'espérance, rappelez-vous, il y a déjà un an ou deux, je ne me rappelle plus, c'était vraiment un message que j'avais reçu là pour l'année, mais qui reste encore, qui demeure encore, sur l'espérance. Espérant contre toute espérance. Donc j'aimerais rappeler quelques points sur cette espérance, mais notre société n'est plus une société qui espère. Il n'y a plus d'espérance. Et vous voyez, les quelques-uns qui avaient des espoirs encore, eh bien, sont ébranlés par l'actualité, par les galères aussi, etc. Donc, il y a une sorte d'ébranlement de l'espérance. Il y a une tentation au désespoir. Et donc, le problème, c'est que les conséquences de ça, première conséquence, c'est le découragement au niveau d'une société, mais ça peut être aussi, attention, dans nos vies aussi. Attends, le découragement, démotivation, ou alors, la fuite en avant. Vivre intensément le présent. Je rappelle ce que Paul disait, l'apôtre Paul. Il disait, si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Donc, l'idée de la résurrection des morts, ça c'est le domaine de l'espérance. C'est quand même intéressant de voir que si on ne croit plus en cette résurrection, alors il y a une vie complètement débridée, ou le découragement total, et alors il faut se flinguer tout de suite, quoi. Il ne faut pas attendre, hein. Mes amis, n'attendez pas. Mais si c'est vraiment les morts ne ressuscitent pas, et ben, ou alors on peut profiter de la vie, si vous voulez, un maximum. Donc il y a ces deux tendances qui sont là, qui sont les conséquences de cette absence d'espérance. Et je vous avais rappelé, et j'aimerais le rappeler ce matin, que l'espérance chrétienne n'a pas grand-chose à voir avec l'espérance, petit e, de notre monde, de nos sociétés, de nos vies. Ça n'a pas grand-chose à voir. Et cette confusion peut nous poser des problèmes. Donc au niveau biblique, si vous voulez, on a vraiment besoin, dans ces temps où il y a cette crise un peu d'espérance, on a besoin de savoir qu'est-ce que c'est cette espérance chrétienne. Le monde, quand il espère, aujourd'hui, il y a plusieurs tendances de petite espérance, petit e. Il y a l'espérance politique. On pense que si on change la politique, qu'on vote pour un tel, ça va aller mieux. Donc il y en a qui sont toujours dans cette tension d'espérance. Et chaque fois, bing, déception, quoi. Mais il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Il y a un moment, il faut arrêter. C'est bien qu'on soit des bons citoyens, qu'on vote, qu'on ait nos avis, etc. Mais c'est pas là qu'on va mettre notre espérance. C'est pas ça qui va changer les choses. Et puis, le transhumanisme, vous voyez, l'homme va pouvoir, voilà, ça va être super, il va être impeccable avec l'intelligence artificielle, avec tout ça, on va pouvoir développer des choses. Et puis, le petit virus de la pandémie, un tout petit machin, pouf, bing, plus rien. Donc, ça nous donne un peu d'humilité. Et Dieu est en train de permettre que les petits rêves d'espérance, les petites espérances soient balayés. Parce qu'il veut communiquer une espérance qui est une ancre et qui est, pour la Bible, l'espérance, c'est une chose qui est, je rappelle, naturellement improbable. Alors, par exemple, la venue du Messie. La venue du Messie, les Juifs, ils attendaient, il y en a qui attendent toujours, mais pendant 2000 ans. Ça, c'est l'espérance. Donc, la venue du Messie, ils ont attendu même plus que 2000 ans, dès l'origine. Donc ils ont attendu ça, c'était l'espérance. Mais cette espérance, il y a eu accomplissement. Il y a eu accomplissement. Mais il a fallu cette espérance, qu'il les tienne pendant tant d'années, c'est impressionnant ça. Et puis, par exemple, le retour du Seigneur, ça aussi c'est, naturellement c'est improbable, et c'est pourtant une certitude, voyez. Donc la résurrection des morts, l'avènement des nouveaux cieux, d'une nouvelle terre, tout ça, c'est la certitude, c'est naturellement improbable, mais c'est ce que la Bible dit, et c'est la source de notre espérance. Donc l'espérance chrétienne, en fait, on ne peut pas la produire, mais c'est Dieu qui la donne. Donc c'est comme la foi, on ne peut pas la produire, c'est Dieu qui la donne. Et c'est pareil pour l'amour, on ne peut pas le produire, c'est Dieu qui le donne. Donc en fait, la foi, l'espérance et l'amour, ce sont des vertus de Dieu, qu'on appelle théologal, et c'est Dieu qui veut, qui nous les donne. Je rappelle aussi ce qu'on avait dit, je vais un peu vite parce que j'espère que c'est un rappel. L'espoir petit, l'espoir pour nous, la plupart de nos contemporains, c'est je me situe dans le présent là, et puis je pense à l'avenir, et je me projette. Alors je fais des projections, voilà, j'aurai tel métier, j'aurai telle maison, tiens, je veux tel type de conjoint. Donc je me projette à partir du présent, je me projette sur l'avenir. Ça c'est l'espoir, ça n'a rien à voir avec l'espérance chrétienne, rien à voir. Donc l'espérance chrétienne c'est quoi? Elle part de l'avenir, elle parle de ce que Dieu a promis. Pour le monde, pour la vie, pour l'humanité, pour l'homme, pour chacun de nous. Elle part de là, et à partir de ces promesses-là, paf, ça change mon présent. Ça change ma façon de vivre. Ça influence tous mes choix. voyez. Donc je réinvente mon présent à partir de l'espérance qui est cette encre au-delà du visible. C'est une encre, voyez. Donc tout espoir qui est ancré dans ce monde, il est voué à mourir. Il ne tient pas. Ça ne veut pas dire qu'on se désintéresse du monde, mais c'est parce que notre espérance, elle est ancrée au-delà du visible, dans le lieu saint, dans les promesses de Dieu, dans ce qui est immuable, dans ce qui est éternel, dans ce que Dieu a dit. C'est à partir de là que mon présent peut être changé. Et donc ça, c'est l'espérance. L'espoir, on projette des désirs, voyez, des aspirations, des envies, des souhaits. Et puis, tous ici, je pense, au moins la plupart, sinon je vous le souhaite, hein, d'être déçus à un moment. Parce que ça ne marche pas. Donc, une fois on apprend, deux, trois, quatre fois, on met cet espoir dans les hommes, par exemple. Et puis t'es déçu. Et Dieu dit, bah oui, mais je t'avais dit. Arrête de placer tes espoirs là où il ne faut pas. Place ton espérance en moi. Tu ne seras jamais déçu. Donc voilà. Donc l'espérance, elle prend appui dans la foi et la victoire de celui qui est ressuscité, qui a accompli les promesses de Dieu et qui les accomplira. Donc l'espoir, petit eux, il s'appuie sur des rêves. On les fabrique, les rêves. Fabrication de rêves. Et parfois, en tant que charismatique, on peut se moquer un peu de nous. Vous êtes des rêveurs. Des rêveurs. Je me rappelle, vraiment, c'était il y a longtemps déjà, mais j'en ai soupé de ça. Hein, en tant qu'église Josué, ouais, mais attends, les charismatiques, les rêveurs, tout ça. Un jour, je discutais avec des pasteurs, je dis, ouais, mais les rêveurs, là, qui c'est qui fait les écoles chrétiennes dans ce monde aujourd'hui? À 100%, c'est toutes les églises charismatiques qui sont levées. Des gens dans l'esprit qui captent la prophétie de Dieu. Je peux vous dire, pratiquement 100% des fondateurs des écoles chrétiennes aujourd'hui sont tous dans une dimension de l'esprit. Donc, c'est pas parce qu'on n'est pas des rêveurs, mais quand on capte un rêve de Dieu, mais pas le sien, c'est le rêve de Dieu. À ce moment-là, le présent est changé et les choses se transforment. Donc, on a besoin de rêver plus, mais les rêves de Dieu. Et pas se les fabriquer. Et parfois, bien sûr, on tâtonne et parfois on fait des confusions. C'est normal. On avance. On tâtonne parfois. Et puis donc, l'encre, Hébreux nous dit, 6, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Voyez ? L'espérance est une encre donc qui jette l'encre dans l'avenir et dans cette victoire de la vie sur la mort. Alors, maintenant, ça c'est l'espérance. Maintenant, si on veut de l'accomplissement, l'espérance toute seule ne suffit pas. Il y a besoin de la foi. Et dans le texte qu'on a lu, on voit que l'espérance, elle travaille avec la foi. D'ailleurs, la définition de la foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous avez bien compris qu'ici, c'est pas des choses qu'on espère, les petites eux, quoi, les petits espoirs. Tiens, j'espère que je vais être vachement heureux, que j'aurai plus jamais de problèmes de santé, que j'espère, tu vois. Et puis, c'est pas ça. La foi travaille pas avec cette espérance-là, hein. La foi travaille avec l'espérance chrétienne. C'est-à-dire l'assurance que les promesses de Dieu se réaliseront, qu'il reviendra, que le monde entier sera réconcilié avec lui, avec celui qui est venu pour réconcilier toutes choses avec lui. Voilà. Donc, lorsqu'il est dit, Abraham, espérant contre toute espérance, il crut. Ah, voilà. Donc, ça commence par l'espérance, mais ça continue par la foi. Voilà. Donc, espérant contre toute espérance, il crut de sorte qu'il devint le père d'un grand nombre de nations. La notion de paternité, elle est liée, et de maternité, elle est liée à l'assurance, à la foi et à l'espérance. Et Dieu veut lever des pères et des mères ancrés dans l'espérance et dans la foi. Ça, c'est Abraham. Et donc, car, Hébreux 11, c'est Abraham toujours, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ça nous parle du royaume de Dieu. Ça nous parle de ce royaume. La Nouvelle Jérusalem, c'est le symbole du royaume de Dieu qui est dans le ciel et que Dieu veut faire descendre. C'est la prière du Notre Père, que ton règne vienne. Donc, il attendait cette cité. Ça, c'est l'espérance, voyez. Mais ensuite, il a cru, et c'est ça qui a permis l'accomplissement des promesses. Alors, juste quelques mots de rappel. Quand il est dit, espérant contre toute espérance, c'est l'espérance biblique, ça. C'est une espérance qui n'est pas petite. Il crut, c'est la foi. Maintenant, quand Dieu lui dit, ta postérité sera comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est au bord de la mer, ça, ça fait appel à l'espérance. C'est la grande vision. C'est la finalité des choses. C'est l'espérance. Voyez, ta postérité sera comme les étoiles. Ta postérité, ça veut dire que lui sera plus là. Donc, est-ce qu'on peut... Notre espérance, elle n'est pas basée seulement sur notre portion de vie, mais sur l'héritage éternel qui est conditionné et qui marche avec ça. Et donc, il a vu cette vision, Abraham, il a cru cette parole d'espérance, mais ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu lui dit, va dans le pays, il va, il se met en route. Ça, c'est la foi. C'est plus l'espérance. Mais c'est la foi nourrie de l'espérance. L'espérance, ta postérité sera aussi grande que les étoiles et que le sable. Espérance. Foi, il crut, il marche. Il se met en marche, quoi. Donc, il attendait la cité qui a de solides fondements. Espérance, Dieu lui dit, offre ton fils. Foi. Vous voyez la nuance entre l'espérance et la foi. Il y a besoin, Abraham a articulé les deux, et dans le texte qu'on a lu, c'est les deux qui travaillent ensemble, espérance et foi. Rappelez-vous aussi par rapport à Jésus, lorsque Jésus dit, Jean 10, 28, il dit, mes brebis ne périront jamais. Ça c'est l'espérance ou la foi? Dites-moi, espérance. Mes brebis ne périront jamais, espérance. Maintenant, je leur donne la vie éternelle. Donne, c'est le présent. C'est la foi. La foi, ça concerne mon présent, mon aujourd'hui de Dieu, dans lequel je rentre. Je leur donne aujourd'hui, je prends par la foi. Mes brebis ne périront jamais, espérance. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux, espérance, voyez, vous avez... Et puis alors, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Donc les esprits vous sont soumis maintenant, donc prends par la foi, tu marches sur les serpents et les scorpions. Lorsque, à la résurrection de Lazare, il y a cette question qui dit, c'est Marthe qui dit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Elle le sait, mais il ressuscitera, c'est le futur. Bon, ça c'est l'espérance future. Mais Jésus a dit, attends, je suis la résurrection. Elle fait appel à la foi maintenant. Donc, elle avait de l'espérance, mais elle n'avait pas la foi. Donc en fait, on a besoin des deux. Et Jésus nous montre qu'on a besoin des deux. Regardez par exemple le salut. Le salut que Dieu nous donne, eh bien il y a une dimension de foi, une dimension d'espérance. Le salut, dimension passée. Et ça se prend par la foi. Dieu m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a tiré des grandes eaux. Il m'a sauvé. Et ça se prend par la foi aussi. Ce n'est pas des sentiments, ce n'est pas des sensations. Dieu, tu m'as sauvé, voilà. Ensuite, il y a une dimension présente. Par exemple, un des versets qui dit, il me sauve de toutes mes détresses. Ça, c'est le salut aujourd'hui. C'est pas le salut que tu as acquis à la croix, c'est le salut aujourd'hui. Il te sauve aujourd'hui. Et puis, il y a la dimension future. Et regardez ça, Romains 8, 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Bizarre, hein? En espérance, nous sommes sauvés. Car l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Donc le salut même, il y a une dimension de foi. Je prends le salut, je l'ai acquis, je l'ai reçu. Et il y a une dimension d'espérance, le plein salut, qui touche tous les domaines. Et ça qui n'est pas réalisé complètement. Mais cette espérance... Elle est là parce que c'est Dieu qui l'a promis. Voilà, maintenant, le tombeau est vide, on sait bien, et l'espérance chrétienne, elle est basée là-dessus. Sur le tombeau est vide. La pierre a été roulée. Alors, cette pierre, c'est quoi aujourd'hui? Tout ce qui bouche ma vision. Toutes les circonstances qui font que j'ai envie de baisser les bras. C'est comme une pierre, mais de dire, cette pierre, elle a été roulée, mon ami. Elle a été roulée. Tout ce qui veut te boucher l'horizon, te boucher l'espérance, la grande vision, la pierre a été roulée. C'est pour ça que la résurrection de Jésus, c'est la source de notre espérance. Parce qu'elle s'est passée, elle s'est réalisée, et elle ouvre la porte que personne ne pourra fermer vers le royaume de Dieu et un avenir et un monde nouveau. La résurrection, donc, pour nous, ça signifie pas qu'il faut qu'on échappe au monde, mais la résurrection, c'est qu'on reçoit une mission de Dieu. D'ailleurs, quand il montait au ciel, il a dit, voilà, allez, faites des nations des disciples. La résurrection, elle nous donne une mission sur la base de la seigneurie de Jésus sur toute la terre. Donc, la dimension de l'espérance, elle est énorme, elle est cosmique. Et je vous rappelle, dans Romains 8, toujours, lorsque il est dit la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu, car elle était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance, vous rendez compte, même la création matérielle et végétale et animale, elle espère. La Bible dit, elle espère quoi ? Eh bien, elle espère qu'elle sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Ça veut dire que la liberté que nous vivons, nous, avec le Seigneur, eh bien, ça déteint sur toute la création. Donc, et la position de fils que nous vivons, parfois avec bien des écoles pour y arriver, pour le vivre pleinement, eh bien, ça touche aussi toute la création. Donc voyez, la création, elle soupire les douleurs de l'enfantement parce qu'elle sait qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient, et donc nous pouvons hâter ce nouveau en marchant avec Dieu, en espérant, en croyant et puis en manifestant l'amour. 1 Corinthiens 15. Alors 1 Corinthiens 15, c'est souvent le chapitre qu'on utilise dans les enterrements. Alors c'est le chapitre sur la résurrection des morts. Alors ça, les pasteurs, ils aiment bien, c'est un bon chapitre, toi. Alors, mais tu te dis, mais bon, la résurrection, comment se termine ce chapitre ? Une envolée, ça y est, l'église, elle va dans le ciel, les petites ailes nous poussent dans le dos, il y a une sorte de force cosmique qui te propulse. Non. Le chapitre termine ainsi, conclusion, tout ce discours sur la résurrection, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. Voilà l'équilibre dans l'Écriture entre la puissance de l'espérance, de la résurrection, et puis le travail et l'investissement local. Vous voyez, l'objectif que poursuivait Jésus dans tous ses actes, dans tout ce qu'il a vécu en guérissant les malades, en soulageant ceux qui souffraient, eh bien, c'était de démontrer que son action immédiate dans le présent était la démonstration concrète de ce que Dieu promet à long terme. Voilà un peu. Et nous sommes appelés à vivre ça aussi. Donc je vous rappelle un petit texte que je vous avais lu il y a longtemps maintenant, de N.T. Wright. Écoutez, et ça c'est pour nous tous. Ce que vous faites maintenant, alors je ne sais pas ce que vous faites maintenant, vos activités professionnelles, vos activités de loisirs, vos activités artistiques peut-être, mais écoutez ça, ce que vous faites dans le présent, quand tu as cette espérance et cette foi, par la peinture, qui c'est qui peint aujourd'hui? Allez, levez la main, qui c'est qui peint? Carlo, il peint, mais il y en a d'autres dans l'église aussi qui peignent. Mitzia, elle peignait pas mal. Les enfants, ils aiment dessiner aussi. Eh bien, Dieu dit, ce que tu fais dans le présent par la peinture, la prédication, le chant, la couture. Qui c'est qui fait de la couture ici, là? Il n'y en a pas beaucoup, hein, je crois. Huguette en faisait à fond. Ah, Elisabeth, un peu. La couture, mes amis. La prière, même niveau, tu sais. Couture, prière. Voilà. L'enseignement, la construction d'hôpitaux, l'installation de puits, la construction d'écoles, l'engagement en faveur de la justice, la composition de poèmes, le soin des nécessiteux, l'amour du prochain comme soi-même, toutes ces choses, eh ben, elles se poursuivront dans l'avenir de Dieu. Elles sont éternelles, parce qu'elles sont inspirées par Dieu. Ça, c'est de l'or, et l'or, il passe au travers du feu. Il y a des gens qui pensent qu'un jour, le feu vient, et puis, boum! Dieu, il a fait sa création, il a pris soin, tout ça. Puis ensuite, il prend la boule, là, on bazarde, on refait. Mais c'est une incompréhension des Écritures, mais totale. Non. Ce qui est de l'or traverse le feu et dure toujours. Donc, ce que tu fais, alors je continue, donc l'amour du prochain, etc., comme soi-même, toutes ces choses se poursuivront dans l'avenir de Dieu. Ce ne sont pas simplement des moyens de rendre la vie présente moins pénible, un peu plus supportable, jusqu'au jour où enfin on pourra quitter ce monde pour laisser nos peines derrière nous. Non, non, de tels actes font partie de ce que nous pouvons appeler la construction du royaume de Dieu. Mes amis, Dieu nous fait confiance et nous sommes appelés à bâtir avec lui ce royaume de Dieu, là où nous sommes, dans nos relations, dans ce que nous disons, dans ce que nous prions, dans ce que nous faisons. Donc l'espérance, elle provient en fait d'une vision du monde de changer, c'est-à-dire un monde d'espérance. Parce qu'on connaît la fin, on connaît le renouvellement qui a déjà commencé par la résurrection de Jésus. Ésaïe 11, la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. Espérance. Ensuite, Ésaïe 65, car je vais créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre, réjouissez-vous plutôt, soyez dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Voilà. Le loup et l'agneau pèteront ensemble, le lion comme le bœuf mangera de la paille, le serpent aura la poussière pour nourriture. Ésaïe 66, le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Psaume 115, les cieux sont à l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc vous voyez, ça c'est, on est nourri par l'espérance. Et j'aimerais, dans cette dernière partie maintenant, donc on a parlé de l'espérance, on a parlé de la foi qui marche avec l'espérance, et maintenant on veut parler de l'accomplissement. Parce que par exemple, quand on dit, l'année 2024, dans les réseaux sociaux chrétiens, dans les prédications, dans les messages prophétiques, il y a beaucoup qui revient sur l'année 2024, une année d'accomplissement. Alors, c'est quoi l'accomplissement? C'est ça le truc, c'est quoi? Est-ce que c'est l'accomplissement de tes désirs? Est-ce que c'est l'accomplissement de tes espoirs, petit e? Eh ben non, on a bien vu. Mais c'est la. Alors, ça sera un accomplissement, certainement. Et donc, voyez, c'est juste quelques mots, j'essaie de voir. Donc, quand il est dit, 1 Corinthiens 15, ton travail ne sera pas inutile, c'est-à-dire que tu es appelé à travailler pour participer à l'accomplissement de ce que Dieu veut faire. Alors déjà, l'accomplissement, ce n'est pas sans toi. Déjà. Dieu a tout accompli, oui, sur cette base, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on œuvre. C'est-à-dire, on le laisse œuvrer en nous, on travaille avec lui pour cette construction du royaume, on se donne, on aime, on pardonne, on prie, etc. Donc ça, c'est pas inutile. Je rappelle juste le côté inutile qu'on pourrait imaginer parfois. Bon, parfois, quand on est découragé, c'est qu'on se sent inutile. Et puis là, cette parole aussi du même auteur, vous n'êtes pas en train de lubrifier l'axe des roues d'une machine qui est sur le point de tomber d'une falaise. Vous ne restaurez pas une grande œuvre d'art qui sera bientôt jetée au feu. Il y a des chrétiens qui pensent ça. Hein. Pourquoi être écolo? Parce que de toute façon, tout va être jeté au feu. Alors franchement, vous ne plantez pas des rosiers dans un jardin qui sera prochainement terrassé pour en faire un chantier de construction. Bien que vous ayez du mal à le comprendre et presque autant de mal à croire qu'à accepter la résurrection elle-même, vous êtes en train de réaliser un travail qui fera un jour partie du monde nouveau de Dieu. Donc nous sommes appelés à participer à ce que Dieu veut accomplir. Nous sommes une réponse à la promesse que Dieu va accomplir. Seulement, il ne va pas accomplir sans nous. C'est ça le truc. Il veut accomplir avec nous. Donc quand on dit 2024, année d'accomplissement, soit tu la vois en disant, ouais bon, ça c'est Dieu qui va accomplir. Hein. Tu sais, c'est Dieu qui a promis, il va accomplir. Non, ça ne marche pas comme ça. Dieu dit, il veut te nourrir de l'espérance, il veut te nourrir de la foi, et comme Abraham, tu marches, tu crois, jusqu'à l'accomplissement. Et donc, chaque chose que tu fais, chaque acte d'amour, de reconnaissance, de bienveillance, hein, chaque œuvre d'art, de musique inspirée par l'amour de Dieu, je cite le même auteur, par appréciation de la beauté de sa création, chaque minute passée à prendre un enfant handicapé à marcher, à lire, chaque geste soin d'entretien, de réconfort, de soutien au bénéfice de quelqu'un d'autre, et ben, même au bénéfice des créatures autres qu'humaines que nous côtoyons. Les chats, les chiens, les animaux, tout ça, chaque prière, chaque enseignement, intervention dirigée par l'action de l'esprit, eh bien ça consolide l'Église et ça touche le monde et ça embrasse et ça incarne la sainteté plutôt que la corruption. La notion de sel et de lumière, elle est pleinement là. Et donc nous participons à ce renouveau de toutes choses. Donc Dieu est un Dieu qui recrée. Vous savez, les enfants, ce qu'ils aiment souvent à l'école, c'est la récréation. Voilà. Moi, j'aimais les récréations. En primaire, je me rappelle, j'attendais toujours la récréation. Eh ben, Dieu, c'est pareil, parce que Dieu, c'est le spécialiste de la récréation. Voilà. Il a créé, et il veut recréer, transformer, renouveler, créature nouvelle en chacun de nous. Il veut faire de toutes les hommes et les femmes une nouvelle créature, donc recréer. Et il n'a pas fini avec ça. Et donc, on est appelé à participer à ça. Le problème qu'il y a, c'est que, entre la promesse et l'accomplissement, ah, c'est là qu'il y a les problèmes. Avec Abraham, déjà, entre la promesse et l'accomplissement, il a voulu aider Dieu, quoi. Et c'est, ça vient pas. J'attends 1 an, 2 ans, ça va, mais c'est un max, ça, hein. Et aujourd'hui, dans notre culture de l'immédiateté, c'est pas évident, ça. Ça, c'est pas évident. Par exemple, Joseph, il reçoit ses visions. Il faut 20 ans qui séparent les visions qu'il a reçues de régner, hein, et de l'accomplissement. 20 ans, c'est même pas seulement 20 ans d'attente, c'est 20 ans d'épreuve, c'est 20 ans avec de la prison, avec du mépris, avec du rejet. Et c'est quoi? Où sont tes rêves là? Oui. Mais c'était le rêve de Dieu. Et donc, ça s'est accompli. Oui, c'est bien de voir le contexte biblique, de nous rappeler. Et pareil, Saül de Tarse, persécuteur d'église, il reçoit l'appel de Dieu, 15 ans avant d'être envoyé par l'église d'Antioche, en disant, tu vas maintenant. Et puis dans ces 15 ans, il a passé un temps, alors ça on ne sait pas, les érudits là, ils ne savent pas trop, mais ça a été des années dans le désert. À l'époque, quand tu rencontrais Dieu, qu'est-ce que tu allais faire? Tu allais au désert. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, pour que Dieu te transforme. Et quand tu avais fini ton désert, tu devenais témoin et un évangéliste pour le monde. C'est ce qu'on appelle dans la culture de l'Église les pères du désert, c'est dans l'histoire de l'Église. C'est ces gens qui se retiraient, non pas pour se retirer du monde, mais pour être transformés par Dieu en profondeur, pour mieux toucher le monde. Et ça, ça a été Saül. Voilà. C'est là qu'il a reçu les révélations des Écritures, etc. C'est dans ce temps-là. Et puis, le moment aussi des siècles entre l'annonce de la venue de Jésus et puis la naissance de Jésus, des siècles, c'est absolument énorme. Donc, Dieu accomplit toujours, mais j'aimerais parler d'un accomplissement particulier. Parce que qu'est-ce que Dieu fait entre les promesses et l'accomplissement? Il fait des tas de trucs. Et toi, tu vois rien. Mais lui, il fait. Et qu'est-ce qu'il fait? La première chose, c'est qu'il veut accomplir son œuvre en toi. Nous, on est ciblés sur l'œuvre. Viens accomplir, Seigneur. Viens toucher le monde, changer tout. Et puis Dieu, il te dit, oui, je vais le faire, mais ce que je veux, c'est toi. Et je veux accomplir ma parole en toi. Et j'accomplirai au travers de toi ma parole, mais laisse-moi accomplir. Et il utilise le temps entre la promesse et l'accomplissement pour faire son travail en nous, afin de permettre l'accomplissement. Nous savons, Romains 8, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Je l'ai souvent dit déjà, mais le bien, moi au début de ma vie chrétienne, je prenais cette promesse. Les biens, quoi, ben, j'ai besoin d'une bagnole, les biens, quoi. T'as promis, Seigneur, que tout concurrent mon bien. Et puis, moi, je voyais les biens, tu vois, un peu de fric, quoi, un peu, toi. Voilà. Mais non, ça n'a rien à voir, rien à voir. Le bien, c'est ressembler à Jésus, point barre. Ouf! Alors là oui. Donc, toutes les épreuves, tous les vents contraires, tout ce que tu vis de galère, ça contribue au bien. Au bien, il y en a un seul, ressembler à Jésus. Et une fois qu'il y a ça, alors tout est possible. Il n'y a plus de limites, il n'y a plus rien. Donc voilà, on est dans cette période, on est toujours plus ou moins, hein, entre la promesse et l'accomplissement. Et donc, Romains 5, il est dit, bien plus nous nous glorifions, verset 3, même des afflictions, ça c'est gonflé quand même, même des afflictions, sachant que l'affliction elle produit la persévérance à partir du moment où tu lâches pas. Ça, hein. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Donc, vous voyez, la véritable espérance chrétienne, c'est pas le monde des bisounours, hein. Tu as traversé du feu. Tu as traversé des épreuves. Tu as été affligé. Tu as été découragé. Mais tu as continué à me faire confiance. Et ça, ça donne le saut de l'espérance. L'espérance chrétienne. Tu t'es détaché de toutes les petites espérances pour t'attacher à celui qui est la source de l'espérance. Et donc, lorsqu'il est dit être disciple, Luc 6, 40, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. L'accomplissement 2024, c'est de devenir comme Jésus. C'est ça l'accomplissement. Avant, alors, il y a plein de promesses qu'il va accomplir aussi, mais je crois qu'il faut focaliser sur cette promesse du disciple accompli. Il sera comme son maître. Dieu veut accomplir en nous une œuvre et au travers de nous. Et voyez, et qu'on devienne fils, parce que, encore une fois, c'est au fils qui a l'héritage. Attention à tous les pièges des déceptions, qui ne sont pas la faute des autres, mais qui sont ton propre manque de jugement, parce que tu as placé ton attente là où il ne fallait pas. Et Dieu dit, maintenant, ça, je ne peux plus travailler avec ça. Il faut lâcher ça. Donc, voyez, Romains 4, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham et à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Donc voilà, des gens qui espèrent, des gens qui marchent sur les traces d'Abraham, de la foi, parfois même sans trop savoir, mais ils marchent. Et Dieu dit, ben voilà, eh bien, il y a un héritage. Et cet héritage, il est pour nous tous. Et à cette lumière de l'espérance, je termine par quelques versets que je vais lire lentement, mais qu'on puisse vraiment être imbibé de ça, et que cette espérance nourrisse notre foi pour chacun de nous ici. Donc, premier verset, psaume 43, verset 5. « Pourquoi t'abattu mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Psaume 119, 147. Je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Psaume 137, verset 9. Ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Vous savez, au niveau de l'église Josué, bien sûr le nom de Josué parle de conquête aussi, de terre, mais ça veut dire une solide enracinement dans l'espérance. Hein? Ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Psaume 37, verset 34. Espère en l'Éternel, garde sa voix. Et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Vous vous rendez compte l'importance de l'espérance? Romains 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance, Dieu, l'identité de Dieu, il est le Dieu de l'espérance, vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit, elle est faite pour abonder en espérance. C'est un des aspects de l'onction de l'esprit. Et puis, Éphésiens 2, qu'il illumine les yeux de votre cœur, verset 18-19, on connaît cette prière, hein, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, et quelle est la richesse de la gloire de son héritage, qu'il réserve aux saints, et qu'elle est envers nous, qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Le dernier verset, Colossiens 1, 27. Christ en vous, l'espérance de la gloire. On veut simplement prier. Et Seigneur, tu es le Dieu de l'espérance. Et Seigneur, ce matin, nous te bénissons pour l'exemple d'Abraham. Et pour ton exemple aussi. Tu as regardé la croix, mais tu as pu passer au travers parce que tu as vu la joie qui t'était réservée. Tu étais plein d'espérance et c'est ce qui t'a permis d'obéir jusqu'au bout. Seigneur, je te prie de raviver l'espérance pleinement en chacun de nous. De raviver, de nourrir notre foi Alléluia. Afin qu'elle ne vacille pas, mais qu'elle tienne avec l'espérance, Seigneur. Main dans la main, fortes toutes les deux. Et bien sûr, avec l'amour, une église qui manifeste l'amour. Parce que l'amour est nourri de l'espérance et de la foi. Et Seigneur, ces vertus, nous les recevons à nouveau de toi. Et nous avons pris la Sainte Cène tout à l'heure. Et dans ce lieu d'échange, nous avons échangé nos petits espoirs contre la grande espérance. Notre petite incrédulité contre ta foi, la foi de Jésus en nous. Et nos petits amours contre ton amour à toi, Seigneur, agapé. Alors, merci Seigneur pour ce temps 2024 où tu veux nous donner au-delà de tout ce que nous pensons, imaginons. Et le au-delà, il est ancré derrière le voile et il est ancré dans l'espérance pour chacun de nous. Quelles que soient les épreuves par lesquelles nous passons, Seigneur, je proclame que nous sommes une église ancrée dans l'espérance, une église ancrée dans la foi et une église qui manifeste ton amour. Merci Seigneur, une famille qui accueille la présence de Dieu, qui manifeste son amour et qui incarne son royaume. Merci Jésus, que ta bénédiction repose sur nous Seigneur, au nom de Jésus. Amen, amen.